Quatrième partie. Revenons à mes études. Je n'avais pas cessé de suivre mes cours de droit. J'en suivais même d'autres à la Sorbonne, par goût, pour compléter mon instruction. Celui de M. Patin, analysant quelques auteurs latins de la décadence. Celui de M. Géruzez sur les auteurs français du XVIe siècle. Et celui de M. Damiron, traitant uniquement cette année-là de la philosophie de Bossuet. Les cours de Michelet et de Quinet au Collège de France m'avaient vivement intéressé. Ils étaient remplis d'allusions aux faits contemporains. Mais à peine ces professeurs ouvraient-ils la bouche que les applaudissements éclataient comme des tempêtes. Il fallait quelquefois 10 minutes pour obtenir un peu de silence et leur permettre de recommencer. À la fin de la leçon, vous n'aviez pas entendu 4 phrases intelligibles. C'était désolant. Heureusement, ils écrivaient. Ils écrivaient contre les jésuites. C'est par l'horreur du jésuitisme que la révolution, suspendue depuis Louis-Philippe, se remettait en mouvement. Les jésuites eux-mêmes avaient recommencé l'attaque de nos institutions. Ils venaient d'ouvrir de prétendues conférences religieuses, mais au fond politiques, dans la rue Jacob et d'autres endroits du quartier. Leurs affidés, étudiants comme nous, venaient nous relancer jusqu'à l'école. Ils emmenaient les bons enfants par bande, absolument comme certains recruteurs attendent au débarcadère de chemin de fer les émigrants pour l'Amérique et les emmènent à leurs auberges. Oui, l'agitation prétendue religieuse recommençait. Le grand agitateur de l'Irlande, O'Connell, élève des jésuites de Saint-Omer, en avait donné le signal. L'annonce alléchante était que l'Angleterre, en masse, allait se convertir, que la reine Victoria et quelques-uns des principaux lords avaient déjà fait leur soumission à Rome, en secret, bien entendu. La farce était grossière, mais les jésuites, connaissant l'influence prodigieuse de l'exemple, et sachant que les 99 centièmes des individus ne se décident jamais à rien faire, qu'en apprenant que d'autres ont ouvert la marche, venaient hardiment d'éviter ces bourdes horribles aux jeunes étudiants de première année. On a dit à Sceaux aussi que M. de D'Alembert, à la tête du parti, voulait réveiller l'attention publique en vue des élections de 1846, et qui s'y prenait un an à l'avance en fondant des conférences religieuses. Enfin, les choses en étaient là pendant cet été de 1845. L'approche des examens détournait alors mon attention de tout ce qui ne se rapportait pas au droit. Du reste, rien d'extraordinaire se produisit durant les dernières semaines de l'année scolaire. À la fin d'août, je passai avec succès mon premier examen de bachelier en droit. Et le soir du même jour, je faisais ma malle. Quel bonheur de retourner dans son vieux nid, d'aller revoir ce qu'on aime. Avec quelle puissance ces souvenirs me reviennent. Mais j'ai quitté Paris, nous avons traversé la Champagne et la Lorraine, et je revois, du haut de mon impérial, les vieux remparts de Sainte-Suzanne, ses casernes, son clocher, surmonté d'un nid de cigogne. La diligence entre les avancées de la place, elle franchit les ponts et s'engouffre sous la porte de Lorraine, elle roule sur le pavé sonore de la petite ville, les maisons défilent, les bonnes gens me reconnaissent, ils me saluent de leurs fenêtres et je leur réponds tout attendri. Que l'air est vif sur ce haut plateau des Vosges! Que la lumière éclaire entre ces petites façades blanches et roses, et là-bas que la verdure de la petite place des Acacias est brillante. Il me semble déjà découvrir le grand-père sur le seuil de notre magasin. Il m'attend, le sourire aux lèvres, et la bonne vieille tante Clarisse, derrière lui, coiffée de son gros bonnet des dimanches, regarde par-dessus son épaule. Ils ont reçu ma lettre le matin et savent que la diligence arrive à midi. Enfin, la voiture s'arrête devant l'auberge de la Cigogne. Je descends comme un chat de ma banquette, laissant mon bagage à la porte des messageries. Je traverse la place en courant, Le grand-père fait quelques pas à ma rencontre et nous sommes dans les bras l'un de l'autre. Oh, te voilà, dit-il d'une voix émue. Tu vas bien? Oui, grand-père, très bien. Et toi, tu n'as pas changé? Que je suis content de me retrouver ici. Et tante Clarisse, vous m'embrassez pas? Oh, Lucien, vous êtes devenu si beau garçon que j'ose presque plus. Et l'on s'embrasse en riant. On entre dans la petite bibliothèque. Le grand-père, toujours vif comme un jeune homme, me sourit, les yeux brillants de plaisir. La tante Clarisse court à la cuisine faire les apprêts du déjeuner. Le facteur arrive, portant ma malle sur l'épaule. Il monte dans ma chambre et nous le suivons. Il fallait se débarbouiller après 36 heures de voyage. Et comme j'avais ouvert ma malle, allant, venant, arrangeant mes effets dans les armoires, le grand-père, tout en me parlant des dernières élections, en me racontant les manœuvres des réactionnaires, leurs promesses, leurs discours, leurs dîners, jetait un coup d'œil sur mes lettres, sur mes cartes de visite, car il était fort curieux et s'intéressait à toutes mes affaires, petites et grandes. Ma toilette était terminée et la tante Clarisse nous criait de l'escalier que le déjeuner était servi. Nous allions descendre lorsqu'une de mes cartes étonna le grand-père. Celle que M. Redreuil m'avait remise un an avant dans la cour des messageries. Elle était là, parmi bien d'autres, au fond de ma malle, et je n'y pensais plus. Beaux oreilles, s'écria-t-il. Chanoine promoteur à Beauvais, mais où au diable as-tu fait la connaissance de M. Roseraye, un père jésuite? Oh, il était stupéfait. Et riant de sa surprise, je lui racontai la façon gracieuse dont le révérend père m'avait prié d'aller le voir, les belles promesses qu'il m'avait faites au sujet de la chasse et des autres plaisirs qui m'attendraient à Beauvais. Oh, voyez-vous cela? Disait le brave homme, sans me quitter de son regard malin. Il voulait t'attirer là-bas et te présenter à monsieur l'abbé Feutrier. Mais sais-tu bien que c'est un grand bonheur pour toi d'avoir été distingué par ce vieux renard? Il t'a jugé digne d'être embrigadé dans la confrérie. Hé, nous sommes en passe, mon cher Lucien, de faire un joli mariage, d'obtenir de hautes protections. Il ne nous faut pour cela qu'un peu d'humilité apparente, de la souplesse, un grand esprit de discipline et beaucoup d'hypocrisie. Et toi, tu connais donc M. Roseraye? Lui dis-je à mon tour. Ah, si, je le connais parfaitement. Mais c'est toute une histoire. Allez, te voilà débarbouillé, descendons. Le déjeuner nous attend. Je vais te raconter cela tranquillement entre la poire et le fromage. Nous descendîmes. La table était mise, la grosse carafe étincelait sur la nappe blanche. La bouteille de Lironcourt, la galantine de volaille, me rappelaient les bons dimanches d'autrefois. Et le grand-père, après le premier coup de dent, commença son histoire. Dans ce temps-là, dit-il, en 1829, M. Lette, notre ancien curé constitutionnel, vint à mourir. C'était un brave et digne homme que je connaissais depuis mon établissement à Sainte-Suzanne. Il avait jadis prêté serment la constitution civile du clergé, décrétée par l'Assemblée nationale, acceptée par Louis XVI et par une foule d'honorables ecclésiastiques. D'autres avaient refusé le serment. Le clergé s'était divisé alors sur cette question. Mais le concordat de 1801 ayant mis un terme à toutes ces divisions, ce n'était plus un sujet de reproche que l'on pût faire aux prêtres sans assermenter. L'éponge avait passé sur tout cela. Cependant, le retour des Bourbons, au lieu de ramener chez nous la concorde, comme on le prétend quelquefois, avait fait mettre les bons vieux curés à l'index. On ne pouvait pas les destituer, tous les curés de chef-lieu de canton, d'après le concordat même, étant inamovibles. Mais on leur imputait un crime de s'être soumis aux lois de leur pays plutôt qu'aux ordres de Rome. Pie VII avait rétabli l'ordre des Jésuites par sa bulle Sollicitudo omnium, Et notre pauvre curé Lette faisait amende honorable tous les ans à la date du 21 janvier, jour anniversaire de la mort du roi, pour le serment qu'il avait prêté. Il prononçait son mea culpa du haut de la chaire, en se frappant la poitrine et s'humiliant aux yeux de la paroisse d'une façon déplorable. Cela nous montre, mon cher Lucien, que l'oubli des injures recommandées par le Christ n'est pas précisément la vertu dominante de certains chrétiens qui se prétendent orthodoxes. Enfin, après avoir bu son calice, notre bon curé venait de mourir, regretté de tous les honnêtes gens du pays. Son enterrement devait attirer en ville toutes les populations environnantes, et l'on apprit que Monseigneur Forbin Janson officierait lui-même et prononcerait un discours de circonstance. La réputation de Forbin Janson comme orateur était grande. En ma qualité de conseiller municipal, faisant partie du cortège, j'étais sûr d'être apporté de le bien entendre et je m'en réjouissais. L'affluence des villageois fut immense car on se trouvait en automne après les récoltes. Il fallait remonter jusqu'à l'époque de Napoléon en entrant campagne pour s'en rappeler de pareil. Le pauvre monsieur Lette, selon l'antique cérémonial, fut porté et découvert dans son cercueil de la maison de cure à l'église où l'on célébra l'office des morts avec une pompe extraordinaire. Tous les curés des environs remplissaient le chœur et les chantres avec la musique du régiment accompagnaient la messe aux orgues. L'office terminé, le convoi se remit en marche entre une double haie de troupes pour se rendre au cimetière. Monseigneur, entouré de son clergé, suivait le cercueil. Puis venait le conseil municipal et différentes députations de la place. Et le cimetière était tellement encombré de monde que si la haie des soldats ne s'était pas prolongée jusqu'à la tombe, nous n'aurions pas pu nous en approcher. Cela venait après les missions. Les prédications avaient ressuscité la foi dans les hommes engourdis. L'armée et généralement toutes les administrations étaient aux ordres du clergé. Le pauvre Charles X avait tant de péchés de jeunesse à se faire pardonner que toute la nation devait faire pénitence avec lui et pour lui. Les cloches sonnaient du matin au soir, on célébrait les dimanches et on se confessait par ordre. Pour tous ceux qui prétendaient à quelque avancement, c'était le cas de dire « Hors la foi, point de salut !» Aussi la foi n'avait jamais été si grande. Nous arrivons donc près de la fosse et l'on se distribue autour. Le clergé d'un côté, les autorités civiles et militaires de l'autre. On chante les prières solennelles du Miserere, puis Monseigneur Forbin Janson s'avance près du cercueil et prend la parole. Nous étions en face l'un de l'autre à 10 pas au plus. Il jouissait d'un aussi beau nez que le mien, de sorte que l'on pouvait dire que nous étions bec à bec, la tombe entre nous. Il parlait très bien, d'une voix claire, et le silence de la foule était profond. On devait entendre sa parole jusqu'au dernier rang de cette multitude, que j'estime avoir été de 15 à 20 000 âmes, car elle s'étendait au loin sur la route. Elle couvrait les haies, les champs, les sentiers à perte de vue. C'était vraiment un spectacle imposant du haut de ce tas de terre jaune où je me trouvais debout, dominant les têtes. L'évêque, en quelques sobres mots, retraça l'existence orageuse de M. Lette, les circonstances dramatiques de l'époque qu'il avait traversée, et rappela la faiblesse qu'il avait eue de prêter serment aux puissances de la terre au lieu d'écouter la voix qui lui criait des cieux. « Refuse, on ne se courbe que devant Dieu !» C'était fort bien, seulement la plupart de ceux qui se trouvaient là se courbaient journellement devant d'autres puissances que celles de l'être suprême. Je fis cette réflexion, qui je crois était juste. Après cet exposé, Forbin Janson dit que la miséricorde de l'Éternel est infinie comme sa puissance et que son pardon s'étend à toutes les faiblesses, mais que le faible, le coupable, ne peut pas s'asseoir à sa droite, que le ciel lui est fermé jusqu'à l'expiation de ses fautes. De là, il établit la théorie du purgatoire, contrairement à la doctrine des hérétiques, qui ne reconnaissent que le ciel et l'enfer. Il développa cette thèse longuement avec éloquence. Puis d'une voix puissante, il s'écria « Que ceux qui sont touchés de ma parole, que tous les fidèles émus par ma foi s'agenouillent et prient avec moi pour appeler la miséricorde du Seigneur sur cette âme un instant égarée. » Et dans la même seconde, tous ces milliers d'êtres s'agenouillèrent, on aurait dit un coup de vent qui fait courber les blés. Je restais seul, debout, en fin de forbage en son, qui me regarda jusqu'au fond de l'âme. Oh, je regardais aussi en pensant, si tu m'apostrophes, je vais faire l'éloge de mon vieil ami le curé Lette. Je vais glorifier son dévouement et sa soumission à la patrie, et je vais envoyer son âme directement au ciel en récompense de ses vertus. Il devina sans doute mes intentions à mon regard, et au bout d'une demi-minute, élevant les mains aux cieux, il dit « Oh mon Dieu, je vous remercie d'avoir touché ces âmes de votre grâce. Je vous remercie d'avoir permis que dans cette multitude, un si petit nombre échappe à votre sainte bénédiction. » Alors, jetant un rapide coup d'œil autour de moi, je vis dans la foule le notaire Esbach, le père du professeur Esbach de Strasbourg, qui n'avait pas fléchi le genou devant cet homme. Nous échangeâmes un sourire. Tous les autres, maire adjoint, officier de tout grade, et le rabbin lui-même, oui, le vieux rabbin Sichel, mon voisin, et son grand sacrificateur Elias, venu là par curiosité, je les vis tous à genoux, humiliés. Et je compris l'orgueil de cette puissance, commandant un mot à la multitude et la courbant à ses pieds dans la poussière. Après la prière de l'évêque, la foule se relevant, commença par s'égouler du cimetière et des environs sur la grande route, et au bout d'un quart d'heure, nous pûmes aussi nous remettre en chemin pour la ville. Une circonstance comique qui me revient en ce moment, c'est que, trouvant en route mon vieil ami le rabbin Sichel, j'allais le railler de sa génuflexion, lorsqu'il me prévint en s'écriant « Le bigre, je t'avais toujours considéré jusqu'à présent comme un homme raisonnable, mais l'imprudence que tu viens de commettre aujourd'hui me fait changer d'opinion à ton égard. Quelle imprudence, mais quelle imprudence tu viens de commettre ! Au moindre signe de l'évêque, tout ce tas d'imbéciles, d'être stupide et féroce, serait tombé sur toi et t'aurait mis en pièces. Mais tu n'as pas vu cela. » « C'est bon, lui répondis-je en souriant. Tu m'attaques pour n'avoir pas de défendre. Comment toi, toi, Sichel, le plus respectable des rabbins que je connaisse, au lieu de te redresser sous la protection de ton Dieu Jéhovah, tu le courbes ? Tu l'humilies dans la personne et tu lui fais donner du nez en terre aux pieds de cet évêque. Tu n'es pas honteux? Tu ne comprends pas ton indignité dans cette circonstance? Allons donc, fit-il en haussant les épaules, allons donc. D'un tel Sichel veut se courber tant qu'il voudra. Jéhovah reste debout. Qu'est-ce qu'une poussière, une pauvre réseau telle que moi peut faire au Dieu d'Israël? Oh, Nathel, Sichel, ne pas assez fou, assez insolent pour dire et penser qu'il représente l'Éternel. Sache bien, le bigre, que l'orgueil ne fait pas la grandeur. D'un souffle, Jéhovah balayerait tous les évêques du monde. Mais, comme la foule nous suivait de près sous les portes de la ville, se retournant à ces mots, le vieux rabbin frémit de ce qu'il venait de dire et murmura « Bah, tu deviens un fou comme toi. Si par malheur quelques-uns de ces fanatiques nous avaient entendus, Dieu sait ce qu'ils feraient de nous. » Bon, mais j'oublie de te dire comment la connaissance de M. Roseray, secrétaire de Forbin-Janson, se rattache à mon histoire. Le lendemain, j'étais dans ma boutique à débiter mes livres, lorsque M. Roseraye entre et me demande quelques ouvrages de piété, qu'il examine scrupuleusement, et tout à coup, relevant la tête, il me dit « Vous vendez des livres de piété, monsieur, et vous ne croyez à rien ?» Son apostrophe m'interloqua une seconde, puis je lui dis « Comment je ne crois à rien ? Je crois d'abord au bon sens, je crois à la raison, je crois aussi qu'il existe des impertinents de toute espèce. » « Mais vous ne croyez pas en Dieu ? » fit-il avec arrogance. « Oh, la colère me gagnait !»« Bon, je crois qu'il existe un être suprême, monsieur, lui dis-je, mais je ne comprends pas l'infini, et vous ne le comprenez pas non plus. » Et voyant qu'il voulait engager une discussion devant plusieurs personnes qui pouvaient mal interpréter mes paroles, je lui dis, en me retournant et prenant dans les rayons un volume du dictionnaire philosophique de Voltaire, « Tenez, monsieur, lisez cela, c'est mon bréviaire. Vous comprendrez ce que je crois et ce que je ne crois pas après avoir lu ça. Toutes les autres explications que je pourrais vous donner seraient inutiles. » « Fort bien, » fit-il après avoir lu le titre, « je m'en doutais. » Il sortit pour se rendre directement au collège. On approchait de la fin des vacances. J'avais fait venir un bon nombre de livres classiques pour la rentrée des classes. Eh bien, tous ces livres, ces rudiments, ces exercices de grammaire me restèrent parce que monsieur le principal en demanda d'autres. C'était une perte sèche de quelques 100 francs qui me faisait subir. Et bientôt après, le bruit courut qu'un libraire allait s'établir à Sainte-Suzanne avec la recommandation spéciale de Monseigneur, et que lui seul vendrait des livres de piété autorisés. Alors je fus attaqué dans mes moyens d'existence. Et si les événements de juillet n'étaient pas survenus, si les hommes de mon opinion, menacés comme moi, n'avaient pas serré les rangs pour bousculer les autres et les faire rentrer sous terre, oh, je ne sais pas ce qui pouvait advenir encore. Et voilà comment j'appris à connaître le jésuite Roseraye. Le grand-père, à 73 ans, n'avait rien perdu de sa verve caustique ni de sa mémoire. « Maintenant, disait-il, l'élection de Pie IX a dispersé les jésuites. Ce pape, nommé par l'influence de la France, n'est pas leur créature. Alors ils se sont retirés à Lyon, leur place forte. Il rêve, il médite, il combine. » D'autres, après une défaite, paient les frais de la guerre en hommes, en canons, en argent, en territoire. Mais eux, ils se retirent tranquillement, personne ne les inquiète, on ne leur applique même pas les lois anciennes qui les proscrivent. On est trop heureux d'être délivrés de leurs attaques, de respirer quelque temps, et tout en reste là, jusqu'à ce qu'ils trouvent une occasion favorable de tout soulever et troubler. Ce n'est pas un petit avantage d'appartenir à une association privilégiée où tout est à gagner par l'agression et rien à perdre dans la déroute. Mais si cette association maintient chez nous, c'est à la faiblesse et à la lâcheté des gouvernements qu'elle le doit. Depuis la mort du duc d'Orléans, les jésuites se sont emparés de l'esprit de la reine Marie-Amélie. La pauvre femme croit que cette mort est la punition des mariages hérétiques contractés par sa famille. Elle pleure, elle se désole, elle donnerait tout pour sauver au moins l'âme de son fils. Et naturellement, les révérends pères profitent de ces heureuses dispositions, absolument comme ils profitèrent des craintes superstitieuses de Marie de Médicis après l'assassinat de Henri IV, pour obtenir d'elle l'autorisation de professer publiquement en théologie et en toutes sortes de sciences, puis d'être agrégée à l'université. Bientôt après cela, leur suffisait plus, ils prétendirent conférer eux-mêmes directement les grades universitaires, c'est-à-dire introduire dans ce corps des éléments de dissolution, pour ensuite le remplacer. L'université, menacée d'être mise à la porte de chez elle par ces intrus, se révolta. Le Parlement, avant tout français et gallican, condamna les livres des bons pères. La Cour, qui est elle-même des envahissements d'une puissance étrangère, applaudis, et les jésuites, exaspérés de ce qu'on ne leur laissait pas violer l'esprit national, prêchèrent alors ouvertement qu'il est loisible de déposer les rois qui ne remplissent pas leurs devoirs, en d'autres termes, qui n'obéissent pas aux jésuites, qui ne leur livrent pas la jeunesse. J'ai vu ces gens à l'œuvre. Tantôt ils paraissaient sommeillés, tantôt leur audace et leur insolence ne connaissaient plus de bornes. Mais crois-tu, grand-père, lui dis-je, qu'ils osent se remettre en campagne avant 10 ans, sous un pape aussi libéral que Pie IX? Je crois, fit-il, que si le nouveau pape marche à l'encontre des jésuites, il sera frappé subitement par la main de Dieu. Et comme je me récriais, « Oui, fit-il, en aspirant une bonne prise, par la main de Dieu. » Lorsqu'en 1769, les ambassadeurs de France et d'Espagne présentèrent à Clément XIII la demande formelle d'abolir l'ordre de Jésus, le vieux pontife, forcé de céder, mourut dans la nuit même qui précédait le consistoire où devait se traiter la question. Dieu l'avait frappé pour son défaut d'énergie. Oh, les jésuites alors firent l'impossible pour enlever l'élection d'un pape à leur dévotion. Mais ils échouèrent. Et Vincent Ganganelli, par notre influence, fut nommé. Il prit le nom de Clément XIV. À peine établie, la terrible affaire des jésuites se représenta. Et longtemps elle resta sur le tapis. Le malheureux pape tremblait de l'aborder, il reculait d'année en année, sous 1000 prétextes. Mais enfin, sommé par Charles III d'Espagne et Louis XIV, il ne put reculer davantage et signa la fameuse bulle d'abolition de l'ordre des jésuites le 21 juillet 1773, en disant « Je fais mon devoir, mais cette suppression me donnera la mort ». Or, Clément V et Philippe le Bel, après avoir supprimé l'ordre des Templiers, étaient morts dans l'année pour comparaître au tribunal de Dieu. Clément XIV devait aussi mourir dans l'année pour rendre compte à l'Éternel de l'attentat qu'il venait de commettre contre les Jésuites. Ces assignations à bref délai frappent l'imagination des peuples. Ils voient que Dieu venge immédiatement ses serviteurs. Aussi, dès la semaine sainte qui suivit sa bulle, le pape se sentit atteint subitement d'une commotion profonde, froid glacial l'envahit, la main de Dieu était sur lui. Sa raison s'égara et le pauvre homme mourut en 1774. « C'était un hasard, » dis-je au grand-père, « mais, sans m'écouter, il poursuivit. » Notre ambassadeur à Rome, le cardinal de Bernis, écrivit alors « Le genre de la maladie du pape et surtout les circonstances de sa mort font croire communément qu'elle n'a pas été naturelle. » Et dans une lettre ultérieure, il ajoutait « Les circonstances qui ont précédé, accompagné et suivi la mort du dernier pape excitent à la fois l'horreur et la compassion. » Ces écrits du cardinal de Bernis, déposés au ministère des Affaires étrangères, comme toutes les pièces diplomatiques, disparurent bientôt des archives et puis on les déclara tout bonnement apocryphes. Mais ils avaient été publiés avant leur disparition et le cardinal de Bernis n'avait pas réclamé. Le grand-père se tut quelques instants pour me laisser réfléchir. « Tu vois, Lucien, reprit-il, que si le pape Pie IX est prudent, il ne poussera pas trop loin ses réformes. Et si Rossi, notre ministre plénipotentiaire à Rome, l'engage, ou comme on le prétend, à fonder un gouvernement constitutionnel dans les états de l'Église, et que ses avis soient goûtés du Saint-Père, alors qu'ils redoutent tous les deux la main de Dieu. Quiconque attaque directement ou indirectement la puissance des jésuites est un ennemi de Dieu, un empoisonneur. Et s'il en vaut la peine, tôt ou tard, il éprouve des commotions, comme Clément XIV. Ce sont des avertissements salutaires pour les autres. « Oh, grand-père, m'écriai-je, tu vas trop loin, ce n'est pas possible. » Et lui, haussant les épaules, me répondit, « Oh, forme, mais tu ne connais pas les grandes passions humaines, et je t'en félicite. Tu ne sais pas à quelles extrémités peuvent nous porter la cupidité, l'orgueil, l'esprit de domination qui s'abrite derrière le nom et l'autorité de Dieu. Une fois cette barrière de la crainte et du respect de Dieu franchie, on ne recule devant rien, car on ne croit plus à rien. On se rit des scrupules. On dit que le matérialisme fait des progrès dans le peuple. Le fait est évident, incontestable, mais à qui la faute ? Ce n'est pas d'aujourd'hui que les jésuites sont matérialistes. Ils l'étaient dès leur origine, et tout en prêchant le spiritualisme, la crainte des peines futures aux autres, pour les dominer et les exploiter, ils ne croyaient qu'à la matière, à la force, à la ruse, à la fortune, au succès. Tous leurs actes le prouvent. Jamais ils n'ont reculé devant un moyen quelconque pour atteindre un résultat favorable à leur ordre. De leurs principes matérialistes, ils déduisent hardiment toutes les conséquences. De là leur audace, de là leur morale relâchée, de là leur axiome, la fin justifie les moyens. De là leur influence dans les affaires de ce monde terrestre. Les jésuites ont eu, avant le XVIIIe siècle, avant Voltaire et les encyclopédistes, ils ont eu 24 maisons professes, 669 collèges, 176 séminaires, 61 noviciats, 315 résidences, 273 missions chez les infidèles et chez les protestants. L'ordre se composait de 22 589 membres, dont la moitié avait reçu l'ordre de la prêtrise. Le grand-père venait d'ouvrir le dictionnaire encyclopédique et me lisait les chiffres. Leur orgueil n'avait plus de frein quand ils furent bannis du Portugal en 1759, de la France en 1764, de l'Espagne et de Naples en 1767. Et quand enfin Clément XIV, forcé par la clameur universelle et par l'exclamation instante des princes, bien décidé à rester maître chez eux, supprima l'ordre par la bulle « Dominus sacré dominator noster », ce qui lui coûta la vie. Et les révérends pères voudraient ressaisir ce qu'ils ont perdu, mais les circonstances sont bien changées. Maintenant que le matérialisme fait école, grâce à leur politique, maintenant qu'on les a jugés par leurs actes, selon le principe « acta non verba », des actes et pas des paroles, ils se trouvent en face de gens peu timorés, qui les connaissent à fond et ils attendent avec calme, prêts à pousser la lutte jusqu'aux dernières extrémités, s'ils l'engagent et à les balayer pour mettre fin à ce lourd abus de confiance dont notre malheureux pays souffre et qui a déjà fait la perte de tant d'autres nations. Un sentiment d'horreur m'avait saisi, et me sentant incapable de ramener le grand-père à des appréciations plus modérées, j'en restais là de notre discussion. Pendant mon absence, la bonne petite ville de Sainte-Suzanne avait été fort agitée. À la suite des mystères de Paris était venu le juif errant, que les curés avaient condamné en chaire, et malgré ses interdictions, tout le monde s'était mis à le lire. Le grand-père, pendant 5 mois, avait eu 15 exemplaires de ce roman toujours en route. À peine un volume rentrait-il à la bibliothèque qu'il était demandé par 10 abonnés à la fois. Un grand nombre d'exemplaires illustrés s'étaient aussi vendus. Et après cette fureur, la discorde régnait partout, on ne voyait plus que des jésuites à tous les coins de rue. Toutes les anciennes autorités, destituées après la chute de Charles X, l'ancien maire, M. Jubinal, son adjoint, M. Faria, tous les membres de la fabrique et leur dame, qui vivaient à part et ne fréquentaient que leur monde, ce qu'on appelait les gentilshommes bourgeois, chevaliers de Saint-Louis et de l'ordre de Malte, tous, sans exception, passaient pour être de la compagnie de Jésus. Et l'on se disait, « Voyez là-bas, Rodin qui passe, voyez Madame de Saint-Dizier qui va faire sa visite au vicomte des Grignier. » La vieille Françoise Baudouin attend son tour au confessionnal de l'abbé Dubois. Caboche a déjà fait son rapport ce matin, et ainsi de suite. C'était scandaleux. Bientôt, par la discrétion de M. Faria, on apprit que le parti légitimiste avait député quelques-uns de ses gens à Belgrave Square pour offrir ses hommages respectueux au rejeton des fleurs de lys qui se trouvaient alors en Angleterre et qu'après avoir vu le jeune prince, ils étaient revenus consternés. Que M. Berry lui-même s'était écrié « Le pauvre enfant, comme on nous l'élève, il vit au XVIe siècle. M. le duc de Damas assume une grande responsabilité. Notre prince ne voit flotter que le drapeau blanc immaculé. Il n'a qu'un cri, Montjoie et Saint-Denis. C'est touchant, mais en vérité, c'est trop beau. » Le grand-père, à ces nouvelles, absorbant une bonne prise, disait gravement « Mais je m'en doutais. Quand on oublie de remonter l'horloge, elle s'arrête. Celle de Versailles marque encore l'heure de la mort de Louis XIV. Il doit en être de même à Goritz, à moins qu'on ait reculé la touche jusqu'à Hugues Capet, ce qui m'étonnerait pas. Les jésuites élèvent ce jeune prince à leur manière, et ces gens-là sont capables de tout. Moi, si j'étais à leur place, je reculerais jusqu'à Dagobert. Plus les choses sont vieilles, plus elles sont nobles et respectables. Chaque fois que j'entends jouer l'air du bon roi, le soir sur le corps de chasse, j'en deviens fou, tout mélancolique. Cette gorille doit avoir sangloté. Oh, le bon vieux temps de l'Inquisition, de la Saint-Barthélemy, des dragonnades, que les jésuites seraient heureux s'ils pouvaient nous le ramener. Comme ils se vengeraient. Malheureusement, c'est pas facile de faire marcher le soleil, la lune, les étoiles, les idées, les intérêts et toutes les horloges de l'univers à rebours. Non, non, c'est pas facile du tout. » Vers la même époque, M. le curé Blanchard étant mort, il avait été remplacé par M. de Pierreville, jeune prêtre, grand, pâle, sec, austère, qui ne regardait jamais les gens en face et les observait en passant du coin de l'œil, sans lever son tricorne lorsqu'on le saluait. Toutes les vieilles édentées et les jeunes de 35 à 40 ans menacés de coiffer Sainte-Catherine étaient en admiration devant ce jeune homme. On ne parlait plus que de M. le curé de Pierreville. La tante Clarisse s'extasiait sur son éloquence. Le grand-père n'eut pas besoin de le voir passer deux fois pour le prendre en grippe. Celui-là, se dit-il, on nous vient directement de Fribourg ou de Montrouge. C'est un jésuite dans toute la force du terme. La paisible administration de M. le curé Blanchard et du vieux curélette a laissé se glisser au milieu de nous une certaine bonhomie chrétienne. Les ressorts du fanatisme se sont relâchés et les révérends pères ont jugé qu'il était temps de remonter tout cela. Monsieur de Pierreville a des instructions spéciales. Nous allons le voir bientôt à l'œuvre. » Il ne se trompait point. Au bout de quelque temps, sans bruit, sans raison apparente, tout paraissait changé. Une sorte de contrainte régnait partout. Le confessionnal ne désemplissait plus. La bonne tante Clarisse, autrefois si gaie, était devenue triste, préoccupée. Elle baissait les yeux devant son frère. Bientôt, dans toute la petite ville de Sainte-Suzanne, il fut question de remarier à l'église les vieilles gens qui, jadis, du temps de la République, s'étaient contentés d'aller à l'hôtel de ville. Quelques-uns de ces vieux, inscrits à la bourse des pauvres, consentirent d'autant plus volontiers que cela se faisait au petit jour, avant la messe. Mais d'autres, un peu plus à l'aise, s'indignèrent de la proposition, disant que leur mariage à la mairie suffisait, que leurs enfants étaient aussi légitimes et jouissaient des mêmes droits que les autres. Le vieux capitaine Chaussetier, ancien brave de l'Empire, criblé de blessures et décoré de la Légion d'honneur, étant mort sans avoir voulu recevoir les derniers sacrements, M. de Pierreville refusa de l'enterrer. Ainsi, de jour en jour, la division se mettait entre les braves gens. « Tu vois, me disait le grand-père, après m'avoir raconté toutes ces choses, voilà ce qu'on appelle l'établissement de la paix, de la concorde entre les citoyens. Quelques centaines d'intrigants, pareil, dans un pays, suffisent pour tout bouleverser, le fond en comble, et rompre les liens de la famille. Et pensez qu'on tolère ces abominations, pensez qu'on paye grassement des jésuites pour faire cette besogne. » Et ce qui l'indignait le plus, c'était de voir la tante Clarisse tout quitter brusquement au magasin pour courir à l'église. L'orage s'amoncelait. Mais le grand-père, doué d'une grande force de caractère, savait se contenir et, jusque vers la fin des vacances, il ne fit aucun reproche à sa sœur. L'explosion de sa colère devait être amenée par l'apparition à Sainte-Suzanne d'un phénomène curieux qui mit toute la ville en émoi. Je parle de la planchette à esprit. Des bonnes gens de chez nous ne s'étaient pas beaucoup occupés des tables tournantes l'année précédente, car une table qui tourne lorsqu'on la pousse est un phénomène assez vulgaire. Et les tables qui frappent lorsqu'on appuie les mains sur un des coins pour soulever l'autre et le laisser retomber n'offrent pas non plus un grand intérêt. Quelques personnes désœuvrées s'étaient livrées à ces exercices par distraction, mais voyant que chacun pouvait y réussir, on n'y pensait déjà plus. Lorsque Jean-Pierre Legris, forgeron à la porte de Lorraine, parti 5 ans auparavant pour aller chercher fortune en Amérique, ayant appris que son père venait de mourir, revint occuper sa forge. Legris rapportait de Philadelphie la fameuse planchette aux esprits, munie à l'un de ses bouts d'un crayon qui traçait des caractères lisibles sur une feuille de papier par l'imposition des mains et rendait ainsi des oracles. À cette nouvelle, toutes les personnes instruites de Sainte-Suzanne, le commandant de place, le maire, les notaires, le percepteur, les conseillers municipaux, bref, tous les notables, accompagnés de leurs dames et de leurs demoiselles, se rendirent en procession à la forge de Legris pour interroger Moïse, Socrate, Alexandre, César, Voltaire, Napoléon, qui se faisaient un véritable plaisir d'accourir et de répondre aux questions qu'on leur posait. Tous les soirs, de 8 à 10 heures, la forge était encombrée de monde, et les réponses des esprits se colportaient en ville. On leur trouvait une profondeur inouïe. Le grand-père, sur le seuil de sa librairie, voyant ces gens courir à la forge, en devenait tout mélancolique. « Tous les jours, disait-il, on découvre de plus en plus la profondeur de la bêtise humaine. Faut-il s'étonner lorsqu'on voit tant de personnes instruites aller interroger un morceau de bois sur les mystères de la nature, que du temps des Grecs et des Romains on ait cru à la sagesse des poules et des oies ? Faut-il s'étonner que les Égyptiens aient adoré des vaches, des chats et des crocodiles ? Dieu du ciel, où donc en sommes-nous ? Les adorateurs du dieu soleil n'étaient-ils pas des génies auprès de pareils imbéciles ? Cependant, son scepticisme à l'endroit des planchettes devait être mis à une singulière épreuve. Un matin, Jean-Pierre Legris, étant venu chercher 3 ou 4 rouleaux de papier pour sa planchette, le grand-père saisit l'occasion de lui parler des esprits. C'était un bon gros homme, aux mains rudes, à la figure sérieuse, entouré de gros favoris noirs coupés en brosse, et qui se promenait en ville pour ses affaires, en bras de chemise, les manches retroussées jusqu'au coude et le tablier de cuir sur les genoux. On ne pouvait supposer la moindre supercherie de sa part. « Oh, ça, Legris, lui dit le grand-père, qu'il connaissait depuis son enfance, qu'est-ce que c'est donc que cette planchette dont tout le monde parle et ces esprits qu'on interroge chez vous ?»« Ma foi, répondit le forgeron, j'en sais rien moi-même. Chaque fois que je pose les mains dessus, je me dis, ça marchera-t-il ou ça marchera-t-il pas ? Et quand ça marche, je me demande encore, c'est pas toi qui l'as fait aller dans le savoir ?» C'est étonnant, monsieur le Bing, j'y comprends rien. Mais d'où la tenez-vous ? Je l'ai fabriquée moi-même sur le modèle de celle que j'avais vue à Philadelphie, à 6 mois avant de revenir. Là-bas, tout le pays avait de ses planchettes, et le soir, on les faisait aller pour s'amuser. J'étais forgeron dans une ferme aux environs de la ville, et après souper, on se mettait à ça. C'était notre passe-temps. Les filles se faisaient dire leur bonne aventure, et le maître de la maison, qui s'appelait Yud Man Yud, l'interrogeait sur le champ des candidats aux prochaines élections. Enfin, chacun lui demandait ce qu'il voulait. La fille de la maison, Henriette, avait le fluide. Alors vous avez aussi le fluide, le griot ? Oui, monsieur le Bible, oui. Et moi, oh, il faudrait essayer, peut-être que vous l'avez. Eh bien, dit le grand-père en riant, nous essaierons. Quand faudra-t-il venir ? Oh, quand vous voudrez, dès ce soir, si vous voulez. Je vous ferai passer en première ligne, comme une ancienne connaissance. C'est bien, je viendrai ce soir avec Clarisse et mon petit-fils, nous regarderons ça. Le forgeron partit, et son air de bonne foi n'avait pas laissé de me toucher. Dans tous les cas, me disais-je, s'il nous trompe, il n'aura pas voulu nous tromper. Je me promettais de bien regarder. Quant au grand-père, il souriait et disait qu'il faut s'amuser à tout âge, que faute de spectacle à Sainte-Suzanne, nous aurions celui-là. Le soir donc, après souper, vers 8 heures, on se mit en route. La forge brillait dans la nuit. En arrivant, nous trouvâmes le gris devant sa porte qui ferrait un cheval de roulier. Dans sa masure, 5 ou 6 voisins attendaient qu'il eût fini pour commencer la représentation. « Entrez, entrez !» nous dit le forgeron. « Vous arrivez bien, il n'y a pas encore de monde, mais j'ai promis à Mme Poulard de commencer par elle et ensuite ce sera vous. » Madame Poulard était la femme du boulanger voisin, une grosse mère réjouie. Elle attendait avec ses 2 filles. Nous regardâmes le gris chauffer son fer, le forger, l'appliquer sur la corne, l'éteindre et le clouer sans se presser. Dans l'intervalle arrivèrent d'autres personnages. Monsieur Frusque, secrétaire de la mairie, Monsieur le juge de paix Lagasse, ayant au bras sa dame. On se salua, tous ces gens-là semblaient fort sérieux. Enfin, le gris ayant terminé sa besogne, se lava les mains au cuveau, se les essuya derrière la porte au torchon, et nous dit d'un ton joyeux, « Eh bien maintenant, messieurs, mesdames, nous allons commencer, entrez. La table est déjà prête. Catherine, allume la chandelle. » Mais tu vois bien que j'ai l'enfant sur le bras. Bon, j'y vais moi-même. Nous entrâmes au fond du taudis, comme la chandelle s'allumait. Nous vîmes à droite du réduit, dans l'ombre, 2 enfants dans un berceau d'osier. La femme, qui donnait le sein à un autre, en rechignant, fort ennuyée de voir tant de monde encombrer tous les soirs la baraque, un petit chouin noir qui grognait, et la table de sapin où se trouvait déjà la planchette sur un rouleau de papier dont l'un des bouts tombait à terre. Le gris s'assit sur un escabeau et dit en posant ses grosses mains sur la planchette « Madame Poulard, c'est vous qui passez la première. Vous n'avez qu'à demander l'homme de qui vous voudrez pourvu que ce soit d'une personne morte. Elle viendra tout de suite. » À ces mots, la femme du boulanger frémit. Elle croyait sans doute que l'âme allait lui apparaître. « Bon, fit-elle, je ne suis pas venue pour voir l'âme d'un mort. Oh non, j'ai bien m'en aller. »« Non, mais vous avez tort, elle ne vous fera pas de mal. Non, j'aime mieux sortir. »« Mais attendez donc. Tenez, vous voilà déjà que la planchette marche. Qu'est-ce que vous voulez savoir ?» Madame Poulard, qui s'éloignait, voyant que l'âme répondait par la planchette, sans apparaître en personne, revint et dit « Je voudrais savoir si mon fils Hubert, qui est dans les chasseurs d'Afrique, sera bientôt nommé brigadier. » Oui, répondit la table, dans 3 mois après l'expédition. Est-ce qu'il faut lui envoyer de l'argent? Oui, mais pas autant qu'il en demande. Combien? La moitié. 15 francs? Oui, c'est assez. Mais il dit que l'ordinaire est mauvais et qu'on souffle la misère. Ce n'est pas vrai, votre Hubert est un carotteur. Il aime à boire, ne l'écoutez pas. Ah, oh, je pensais bien, dit la mère Poulard. Et regardant autour d'elle, mais elle voudrait encore demander quelque chose. Quoi, parler? Est-ce que ma fille Elisa se mariera bientôt? Pas sitôt, qu'elle se méfie. La bonne femme n'en voulut pas savoir davantage, et traversant le cercle des spectateurs, elle sortit. L'enfant se mettait à crier, et le forgeron dit à sa femme, « Va-t'en d'ici, va te promener dehors, on ne s'entend plus. » Et le grand-père, le bigre, me disait à l'oreille, « C'est insensé, quelle farce !» Et le gris lui ayant dit, « Monsieur le bigre, c'est à votre tour, qu'est-ce que vous voulez savoir ?»« Bon, fit-il en souriant, moi rien, c'est Clarisse qui voudrait interroger votre planchette. Allons, Clarisse, parlez !» Mais avant que Clarisse eût répondu, la planchette, avec une rapidité singulière, écrivit, « Non, je ne lui répondrai pas. »« Bien, pourquoi donc ?» fit le grand-père. Parce qu'elle a brûlé Voltaire. Depuis 2 mois, le dictionnaire philosophique de Voltaire avait disparu de la bibliothèque et le grand-père ne savait à qui le réclamer. Cette réponse de la planchette le stupéfia et regardant sa sœur, il lui dit « Comment est-ce vrai ce que le gris raconte là ?»« Ce n'est pas le gris qui parle, » écrivit rapidement la planchette, « c'est moi. » « Qui, toi ? Moi-même, Voltaire. » La tante Clarisse ne répondit pas. Elle était toute pâle, effrayée de l'annonciation autant que de l'oracle. Le grand-père, voyant qu'elle se taisait, dit brusquement, « Cela suffit, sortons. » Nous sortîmes ensemble et nous retournâmes à la maison en silence. Le grand-père, qui donnait le bras à sa sœur en allant à la forge, marchait seul en avant, tout pensif. La lune brillait et, sur le seuil de la librairie, m'étant approché de lui pour lui dire « C'est bien étonnant, grand-père, n'est-ce pas ?»« Quoi ?» Cette réponse de la planchette. « Écoute, Lucien, » fit-il d'un ton sec et fâché. « Ta crédulité, soit dit entre nous, est un peu trop grande pour un garçon de ton âge. Je me moque de la planchette. La planchette a dit ce que le gris avait appris par sa femme, et sa femme avait appris la chose d'une autre. Toutes ces commères ont fait leur Pâques à la tête de Sainte-Suzanne, et depuis elles se racontent leurs confessions et leurs pénitences les unes aux autres. » Voilà ce qu'il me dit. Et la tante Clarisse, qui marchait assez loin derrière nous, toute désolée, s'étant approchée, il ouvrit la porte du magasin fermée à la clé, alluma la lampe et, s'adressant à sa sœur, pour la première fois peut-être depuis 40 ans qu'ils vivaient ensemble, il ne lui donna pas son nom de Clarisse et lui dit avec hauteur et dédain « Mademoiselle, vous avez brûlé mon dictionnaire philosophique par ordre de monsieur le curé de Pierreville. » Pour l'expiation de vos péchés et le salut de votre âme. Vous m'avez laissé soupçonner d'honnêtes gens, pendant 2 mois, de m'avoir volé ces livres. Il paraît que monsieur le curé a plus d'autorité chez moi que je ne le croyais. Je me figurais bonnement être le maître ici, mais il s'était ménagé des intelligences dans la place. » La pauvre tante, la tête basse, ne répliquait pas. Et lui, la figure décomposée par l'indignation, termina d'un mot en disant « Nous causons de cela demain, mademoiselle, et nous réglerons notre compte. » Elle voulut alors parler, mais pas un son n'arriva à ses lèvres. Jamais je n'avais vu le grand-père avec cette physionomie inflexible et sévère. Je n'osais moi-même lui adresser la parole, et nous montâmes tous les trois nous coucher. Cette maison si calme, cette vie si douce, si paisible, depuis tant d'années, venait d'être troublée d'une façon tellement imprévue que je compris pour la première fois que le sort de tous les ménages catholiques, oui de tous, est entre les mains du prêtre et que nul ne peut espérer échapper à son influence. Le lendemain, dès 6 heures, j'entendis le grand-père se lever comme à l'ordinaire, s'habiller puis descendre. Mais au lieu d'ouvrir son magasin, selon sa coutume depuis 40 ans, il sortit en tirant le verrou de l'allée à côté qui donnait sur la rue, et je le vis de ma fenêtre traverser la place des Acacias et sonner à la porte de M. le notaire Bergeron. Il avait sa grosse capote et son chapeau de cérémonie. Quelques instants après, la tante Clarisse descendit à son tour. Elle avait entendu son frère sortir par l'allée. Je la suivis et je trouvai la pauvre fille dans le magasin obscur. Un rayon de lumière passant par-dessus la vitrine l'éclairait vaguement dans l'ombre, pâle comme une morte. Elle ne pleurait pas et ne me dit que cette simple parole « Lucien, je suis une femme perdue. Votre grand-père ne me pardonnera jamais. Ah, si le bon Dieu voulait me retirer de ce monde !»« Oui, c'est un grand malheur, lui dis-je, touché de son accent. Mon grand-père est allé tout à l'heure chez M. Bergeron, le notaire. Je ne sais pas pourquoi faire. » Elle ne le savait sans doute pas non plus, car elle ne répondit pas. J'ouvris le magasin et la tante Clarisse entra dans la cuisine préparer le déjeuner. La visite du grand-père chez M. Bergeron fut longue. Elle se prolongea jusqu'à environ 8 heures. Il sortit enfin de l'étude, traversa la place et entra dans la bibliothèque. « Mademoiselle, dit-il en passant, veuillez me suivre. Lucien tiendra le magasin. Nous avons à causer ensemble. » La tante Clarisse entra, et la porte de l'arrière-boutique restant entr'ouverte, j'entendis le grand-père s'asseoir à son bureau, déployer son grand livre et dire « Mademoiselle, vous êtes depuis 39 ans à bon service. Les 10 premières années, je vous ai donné 300 francs, les 10 suivantes, 500 francs. Et les 19 dernières années, 600. J'ai placé cet argent, selon vos désirs, chez un homme sûr, M. Bergeron. L'argent s'est capitalisé, vous êtes en possession aujourd'hui d'une honnête aisance. Voici votre compte, veuillez le vérifier. Vérification faite, je vous remettrai la somme que j'ai en portefeuille et vous m'en donnerez quittance. » J'entendis la tante sangloter et dire « Ayez pitié de moi, le bire, ne me chassez pas. Que me fait cet argent? Depuis tant d'années que je vis chez vous, c'est la première faute que vous avez à me reprocher. » « Mais c'est rien, dit le grand-père. Vous le dites, mais rien ne m'en répond. Je croyais être maître chez moi, et je sais maintenant que monsieur le curé commande ici, qui donne des ordres jusqu'à disposer de mon bien comme il l'entend. Il n'aime pas Voltaire, ce monsieur. Et comme je l'aime, moi, comme il me plaît de le répandre, de le louer, d'en faire jouir mes concitoyens au meilleur compte possible, monsieur de Pierreville le fait brûler. Eh bien, depuis quelque temps, j'ai cru m'apercevoir que certains de mes livres disparaissaient. Monsieur de Pierreville vous les signalait, sans doute, et... Oh, le big ne le croyait pas. Monsieur le curé m'avait refusé l'absolution si je ne brûlais pas Voltaire. Je l'ai fait malgré moi. J'irai me confesser ailleurs. Ailleurs, vous demanderez autre chose. Non, non, c'est fini, dit-il. Voici votre compte. Allez dire à monsieur de Pierreville qu'il a parfaitement réussi à désoler un honnête homme. Il en rira ou il en informera l'autorité supérieure. Il aura droit à des félicitations et à la vie éternelle. Mais mon frère, dit la tante Clarisse, fondant en larmes, vous êtes âgé, vous êtes souvent malade, vous êtes habitué à mes soins. Jamais une autre personne ne pourra vous être aussi dévouée que moi et... Cela m'est égal, répliqua-t-il d'une voix sèche, amère. Quand je devrais mourir seul, misérable, abandonné de tous. Monsieur le curé ne restera pas maître chez moi, voilà. Toutes vos protestations sont inutiles, je ne vous crois plus. Et s'animant, vous m'avez volé, s'écria-t-il, entendez-vous volé, pour obéir à l'ordre de monsieur de Pierreville. Et qu'il vous donne son absolution, elle doit vous suffire. Quant à moi, je juge autrement que lui, je ne connais qu'une chose, la justice. Tenez, j'ai déduit de votre compte le prix de mon dictionnaire que vous avez brûlé, 26,50 francs. Somme quitte. Cette conversation me donnait froid. Je sentais à l'accent du grand-père que sa résolution lui coûtait beaucoup, mais que le sentiment de sa dignité, l'indignation de se voir sous la surveillance de l'autorité d'une puissance détestée, le rendait inflexible. Et comme la tante Clarisse, malgré son ordre, ne voulait pas s'éloigner, il sortit lui-même, elle est très altérée, se mit à ranger quelques livres sur les rayons du magasin. L'émotion que venait de me causer cette scène m'empêchait de lui parler. Au bout d'une demi-heure, la tante, voyant qu'il ne rentrait pas dans la bibliothèque, en sortit et passa devant nous, le tablier sur la figure, étouffant ses sanglots. Je l'entendis monter à sa chambre, et seulement alors, recueillant tout mon courage, je dis « Grand-père, la résolution que tu viens de prendre est terrible. » « Je sais bien, fit-il, je vais passer mes derniers jours dans l'isolement. Ce ne sera pas long, j'ai 73 ans. Dans 3 ou 4 ans, ce sera fini. Je vais rester seul avec une servante, la première venue, qui ne saura rien de ma vie et qui, dans le fond, n'aura pas le moindre intérêt pour moi, mais celle-là, du moins, ne m'aura pas trompé. Ce que je hais le plus, tu vois, c'est la dissimulation, l'hypocrisie. » « Mais, grand-père, lui dis-je, tu sais bien que ma tante Clarisse n'a pas grande instruction. Elle ne pouvait prévoir combien cette faute t'indignerait. Elle ne savait pas. »« C'est bien, interrompit-il, elle avait ma confiance, elle s'en est rendue indigne. » Puis, au bout d'un instant, il ajouta, « Mais tâchez de me débarrasser de cette maison, des marchandises, de tout. Ensuite, j'irai te rejoindre à Paris, je louerai une petite chambre et je vivrai seul. » Tu viendras quelquefois me voir, nous causerons. Peut-être pourrais-je te donner encore quelques bons conseils, et je m'éteindrai là-bas. » Je compris que, dans l'état présent de son esprit, il était inutile d'insister. 8 jours me séparaient encore de la rentrée des cours, et j'espérais que, dans cet intervalle, l'occasion de l'apaiser se présenterait plus favorable. Mais à partir de ce moment, notre petite maison, autrefois si gaie, devint d'une tristesse accablante. Malgré le congé qu'elle avait reçu du grand-père, la tante Clarisse ne pouvait se décider à partir. Elle n'osait se montrer à table et prenait ses repas à la cuisine. Il n'entrait pas dans le caractère du grand-père de la mettre à la porte, mais il devenait sombre et ne lui disait plus un mot. Les abonnés, les clients entraient et sortaient sans qu'on fît attention à eux, autrement que pour les servir. La plus à plaindre était encore la pauvre vieille tante, attendant, tout abattue et les yeux rouges, ce que le ciel voudrait décider de son sort. Et comme un matin, le grand-père et moi, nous étions dans la bibliothèque, tout pensifs, après déjeuner, sans nous adresser la parole, tout à coup, je lui dis « Voici la fin des vacances, grand-père, et je ne puis te laisser seul. Non, non, j'ai réfléchi, c'est impossible. L'idée de ton isolement ici, durant des mois et peut-être des années, m'accable. Cette idée à Paris me suivrait partout. Elle m'empêcherait de travailler. Je te verrais toujours triste, comme maintenant, et cela m'ôterait tout courage. J'aurais te rejoindre, fit-il. Eh, mon Dieu, m'écriai-je à Paris, dans la petite chambre dont tu m'as parlé, seul, sans occupation, ce serait bien pis encore. Je ne pourrais être souvent avec toi. Les cours, tu sais, les conférences, les heures de rédaction prennent les trois quarts de mon temps, mais que ferais-tu? Me créerais des distractions, dit-il. Je tâcherais d'assister au débat de la chambre, lirais les journaux. Et tu ne penserais qu'à Sainte-Suzanne. Tu regretterais tes habitudes, tu périrais d'ennui. Et moi, je ne pourrais travailler avec cette idée toujours présente à l'esprit. J'étais désolé. Il entendait à ma voix. Et s'étant levé tout rêveur, il se promena longtemps dans le cabinet, le front penché, les mains croisées sur le dos, perdu dans ses réflexions. Je craignais de n'avoir pu le convaincre, lorsque, s'arrêtant, il me dit « Bon, dans l'intérêt de tes études, je veux bien faire ce sacrifice. Allez, va dire à Clarisse que je lui permets de rester. »« Ah, merci, grand-père, m'écriai-je, le cœur soulagé. Tu n'auras pas à te repentir. La pauvre vieille a trop souffert de sa faute pour jamais y retomber. » Et courant dans l'allée, d'une voix éclatante, j'appelai « Tante Clarisse, descendez, le grand-père vous pardonne !» Elle était toujours à faire sa malle, sortant tout effarée de sa chambre. « Oh, mon Dieu, dit-elle, je suis sauvée, c'est à vous, Lucien, que je le dois !» Puis elle descendit et courut se jeter aux pieds du grand-père en s'écriant « Le bigre, vous me pardonnez. Oh, croyez que je ne vous donnerai plus aucun sujet de plainte. Je ne sortirai plus, je ne quitterai plus le magasin. Je ne veux plus que vous puissiez me soupçonner. » « Allons, relevez-vous, Clarisse, lui dit-il enfin, attendri. Que tout soit ci, soit oublié. Mais j'entends pas que vous ne puissiez plus sortir. Vous aurez vos dimanches, à vous, comme autrefois. Vous irez à l'église, si cela vous convient. » Vous remplirez vos devoirs religieux, cela ne regarde que vous, votre conscience. Seulement, si M. de Pierreville vous parle de mes affaires, vous vous tairez. Et s'il vous donne des conseils, des avis en ce qui me touche, vous me le direz. Alors j'irai trouver ce jeune homme, et je m'expliquerai une bonne fois avec lui. » Une voiture de roulage venait de s'arrêter à la porte. Le grand-père sortit, et voyant le facteur décharger une caisse sur le seuil, la bonne humeur lui revint aussitôt. « Ah ! C'est Voltaire qui rentre à la maison, » dit-il, en se barbouillant le nez de tabac. « Je l'ai fait revenir tout de suite, seulement solidement relié, là. Oh, et cette fois, nous l'aurons complet, en 72 volumes, grand in octavo, avec préface, avertissement, notable, portrait magnifique en taille douce, et précédé de sa vie par Condorcet. » Monsieur de Pierreville apprendra que Voltaire n'est pas mort, qui se promène à Sainte-Suzanne avec sa grande perruque à la Louis XV, appuyée sur sa canne, et qu'il rit toujours comme un bienheureux des imbéciles et des cafards. » Il voulut déclouer lui-même la caisse et ranger les livres sur le comptoir avant de les mettre à la bibliothèque. « Voyez, disait-il à trois ou quatre clients entrés au magasin pendant cette opération, voyez, on me demande toujours du nouveau. Qu'est-ce qu'il y a de plus nouveau dans ce monde que l'esprit et le bon sens ?» Et souriant, il ajoutait avec malice, « L'esprit et le bon sens sont toujours nouveaux pour ceux qui en manquent. C'est une nouveauté pour eux. Rien ne peut leur être plus profitable que d'apprendre à connaître Frérot, Nonotte et Patouillet. » Enfin, sa verve lui revenait. La tante Clarisse, derrière le comptoir, écoutait, n'osant encore sourire, et moi je me félicitais de l'heureuse issue d'une affaire qui menaçait de devenir lamentable. Peu de jours après ces événements, la fin des vacances étant arrivée, Le grand-père lui-même me conduisit à la voiture. Il ne m'avait jamais paru plus gai, mieux portant. « Bon courage, travaille bien, me dit-il en m'embrassant. J'espère te voir encore en robe, plaider ta première cause. » Je l'espérais bien aussi. Mais on ne quitte jamais un vieillard sans de tristes appréhensions. Et la voiture roulait, les coteaux de Sainte-Suzanne avaient disparu, que je rêvais encore dans mon coin à travers toutes les chances d'accident, de faiblesse, de maladie qui pourraient survivre pendant 10 longs mois d'absence. J'en étais triste, et seulement au-delà de Jovencourt, ces pensées mélancoliques s'effacèrent insensiblement, et mes yeux se tournèrent avec plus de confiance vers l'avenir. Il n'est pas un ancien étudiant, je crois, qui ne se rappelle avec bonheur son retour au quartier latin après les vacances. Le plaisir de se retrouver au milieu du mouvement parisien, après le calme de la province, de saluer en passant d'anciens camarades arrivés la veille de Normandie, de Bretagne, de l'Orléanais, etc., de leur serrer la main à la hâte, de courir prendre son inscription à l'école, enfin de rentrer dans sa coquille, de se remettre à son aise dans sa petite chambre, dans ses pantoufles et dans son lit, de s'accouder, comme l'hiver précédent, sur sa petite table en face de la cheminée qui pétille, et de penser « Ah, te voilà donc encore avec 10 mois de travail, de plaisir et de liberté devant toi !» Madame Aubertin n'avait pas quitté le logement. Les camarades revenaient de partout. Et sauf les nouveaux cours de droit commercial, de droit pénal, de procédure civile qui se joignaient aux anciens, sauf ce surcroît de travail, rien ne paraissait changer. Je m'étais remis à l'ouvrage avec ardeur, quand, au premier jour de novembre, je reçus un matin, en rentrant de mon cours, ce billet foudroyant. Cher Lucien, ne perdez pas de temps, revenez à Sainte-Suzanne. Votre bon grand-père est bien malade. Votre tante dévouée, Clarisse Le Bigre. Inutile de vous peindre l'émotion poignante qui me serra le cœur en lisant ces lignes. Chacun se souvient d'en avoir éprouvé de pareilles. Une heure après, n'ayant emporté que ma valise à la hâte, je montais en diligence rue Notre-Dame-des-Victoires et je repartais pour ma petite ville. Dans quelle disposition d'esprit on peut se l'imaginer? Ces 36 heures-là sont les plus cruelles dont je me souvienne. La lourde machine roulait. Je ne voyais, je n'entendais rien. Mon âme était là-bas, dans notre petite demeure, au fond de l'alcôve où reposait le grand-père. Je le voyais. Il me semblait l'entendre respirer péniblement et demander « Lucien, Lucien !» en me cherchant du regard. Comment l'homme peut-il supporter de telles anxiétés? Ah, nous avons de bien grandes ressources pour souffrir. C'est le plus riche trésor de notre existence. Enfin, le matin du second jour, j'arrive à Sainte-Suzanne. Je m'élance de la voiture, je cours. La porte du magasin est fermée. Je frappe à celle de l'allée et la tante, en habit de deuil, paraît défaite, accablée. La pauvre femme n'avait pas osé me dire toute la vérité. Elle avait voulu me laisser, quelques heures encore, une lueur d'espérance. Le grand-père était mort. Il reposait déjà dans sa dernière demeure au cimetière. Qu'on se représente mon entrée dans cette chambre vide et mes cris, mes appels, mon désespoir, ce sont là des déchirements inexprimables. Oui, il était mort. Monsieur de Pierreville s'étant permis de faire allusion à la manière d'être, aux sentiments, aux opinions politiques du vieux libraire, signalé depuis de longues années comme un ennemi des jésuites, avait ordonné à sa sœur de le quitter, la menaçant de lui refuser l'absolution en cas de désobéissance. La bonne femme avait cru devoir tout dire à son frère. Le grand-père était allé trouver monsieur le curé au presbytère. Ils avaient eu une explication violente, et le brave homme, revenant de la toux pâle, le sang sur les lèvres, s'était couché, ne parlant plus que de moi. Il avait succombé le second jour. Voilà l'histoire de mon grand-père le Bigre. Il est mort victime des jésuites, comme sont morts des millions de malheureux, coupables d'avoir aimé la justice, et comme mourront pour le même crime des millions d'autres, si les nations civilisées désireuses de paix, d'ordre, de liberté, ne s'entendent point pour détruire cette association prétendue religieuse de célibataires ambitieux qui troublent le monde depuis des siècles et qui n'ont de commun que la robe noire avec les vrais prêtres du Christ.